If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fait avec amour, préparé avec amour. C'est binge audio, quoi.
Salut, chers auditeuristes, c'est Camille Test. Récemment, je suis entrée dans la trentaine. Dans un an, j'aurai l'âge que ma mère avait quand elle m'a eue. Je me rappelle qu'en petite, elle me racontait comment elle m'avait voulu très fort et comment ma naissance avait changé sa vie. Seulement voilà, si je suis arrivée à l'âge où les gens vous demandent continuellement « Et toi alors, les enfants, c'est pour quand ?» Pour être honnête, moi je n'ai pas tellement envie qu'un petit être, aussi mignon soit-il, vienne changer ma vie. Alors par provocation, je réponds souvent aux inquisiteuristes de la parentalité que j'ai déjà Salem, mon chat. On rigole, mais le non-désir d'enfant, c'est un sujet aussi tabou qu'explosif. Surtout lorsqu'on est une femme. Par exemple, la journaliste Salomé Sacquet, une femme donc, a récemment eu le malheur de dire sur France Inter qu'elle ne voulait pas d'enfant. S'en est suivie une semaine de remontrances, d'insultes et de procès en égoïsme sur les réseaux sociaux. À la même période, l'astronaute Thomas Pesquet a aussi assumé son non-désir d'enfant. Mais lui, on l'a trouvé formidable, féministe et courageux. Outre la vindicte sociale, la parentalité dans une vie, qu'on l'envisage sérieusement ou qu'on cherche à l'éviter à tout prix, c'est souvent quelque chose qui est vecteur de peur et d'angoisse face auquel on se sent parfois très seul et très démuni. Serais-je un bon parent ? Parviendrai-je à maintenir cet enfant en vie sur une planète qui crame de tous les côtés ? Si c'est une fille, serais-je capable de la protéger des hommes ? Mon enfant, malgré moi, paiera-t-il le prix de mes traumas ? Et puis, avec tous ces problèmes d'infertilité, arriverai-je seulement à le fabriquer, cet enfant ? Comment gérer si mon ou ma partenaire s'avère finalement démissionnaire ? Et en même temps, si je ne fais pas d'enfant, qui s'occupera de moi quand je serai une vieille personne dépendante ? Voilà pour mes angoisses, qui sont peut-être aussi les vôtres. Alors pour discuter de tout ça de façon apaisée et décomplexée, j'ai décidé pour cet épisode d'inviter une spécialiste apaisée et décomplexée. Chers auditeuristes, chers publics, merci d'accueillir chaleureusement Renée Greuza. Bonsoir. Bonsoir Renée. Renée, tu es journaliste à l'Obs et à Rue 89. Tu es l'autrice de deux livres, « Enceinte, tout est possible », publié en 2016 aux éditions J.C. Lattès, et « Choisir d'être mère » en 2022, toujours aux éditions J.C. Lattès. Tu as aussi participé à un ouvrage collectif en 2023, « Mère sans filtre », où on trouve aussi d'autres textes d'autrices féministes comme Gabrielle Richard ou Ilana Westman. Tu as un compte Instagram sur lequel tu partages des réflexions sur la parentalité, notamment en lien avec l'actualité, et tu es maman de deux enfants. Tu fais partie de ces mamans qui ont ouvert la voie sur les enjeux de santé mentale et de parentalité. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?
Parce que j'en ai chié. Mon premier fils est né il y a 8 ans. Et alors, je n'avais pas du tout compris ce qui allait se passer. C'est-à-dire que j'avais projeté des fantasmes, ce qui est complètement normal, hein, parce que le désir d'enfant s'accompagne de fantasmes. Et c'est très bien, d'ailleurs, de rêver. Mais je n'avais pas les informations qui me permettaient de comprendre ce qu'allait être la réalité du quotidien d'une mère. Donc, j'avais compris, évidemment, qu'on était responsable d'un enfant et que c'était quelque chose d'assez important. Mais je n'avais pas compris que le manque de sommeil, ça peut rendre fou. Et quand je dis fou, c'est vraiment fou, quoi. Dépressif. Enfin, on n'est pas fou quand on est dépressif. Alors, il faut savoir un truc, c'est que je ne dors pas beaucoup en ce moment. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est bien, c'est dans le sujet. Non, mais en gros, quand on ne dort pas, on devient... Voilà, c'est très compliqué. On devient friable, quoi. Ce que je n'avais pas compris aussi, c'est la question de la disponibilité permanente. Donc, en fait... C'est l'idée que, oui, on est responsable tout le temps d'un enfant, mais en fait, il faut s'imaginer que mon fils, en ce moment, c'est Indiana Jones dans mon salon, quoi. Le gars veut tout toucher, il veut tout attraper. Enfin, c'est un danger permanent et je suis là genre, non, 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 s'il te plaît, non. Enfin, voilà, donc c'est quand même un truc à gérer. Et puis, même quand on n'est pas avec lui, on est en train de se dire, est-ce qu'il va bien? Est-ce que, enfin, vraiment, on est disponible en permanence pour son enfant? Et tout ça, c'est des choses, enfin, on en reparlera plus tard. J'ai pas tout développé en quoi la parentalité, c'est un gros morceau, en fait. Mais c'est des choses qui font que ben on est changé à jamais et voilà et moi j'ai eu envie de dire non pas ce qui m'est arrivé c'est ce qui va vous arriver mais en revanche voilà ce qui peut se passer et de toute manière toutes les expériences de parentalité sont différentes puisque tout le monde est différent mais je trouve ça quand même important de rappeler des choses qui se répètent quand même, quoi. Notamment parce qu'il y a des problématiques systémiques et politiques dans l'exercice des parentalités, et en particulier quand on est une femme aujourd'hui.
Alors, c'est vrai que ces dernières années, on a posé beaucoup de mots sur des problèmes, notamment sur des problèmes liés à la parentalité. On va encore le faire ce soir. Mais Encore Heureux, c'est aussi un podcast qu'on a créé parce qu'on a envie d'aller plus loin et de chercher des solutions, si elles existent, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. On va le faire avec toi, René, et avec mon acolyte et psychiatre préféré, finalement, Daniel Batoula. Merci de l'applaudir.
Bonsoir.
Bonsoir Daniel. Daniel, tu es psychiatre au CHU de Strasbourg. Tu es avec nous pour toute la saison. Tu es aussi le père de deux jeunes enfants.
Tout à fait, exactement. Clémence et Martin, que je salue, qui ont 2 et 3 ans, donc qui n'entendront pas tout de suite ce podcast.
Ils vont pas écouter Encore Heureux. Je suis un peu vexée,
si,
j'avoue.
Si, je leur fais entendre, mais ils ne le comprennent pas encore entièrement.
Comment toi, en tant que père, tu vis cette nouvelle étape, cette parentalité?
Alors, en plus d'être psychiatre, j'ai été formé en thérapie systémique et familiale. Donc, j'ai eu une formation où j'ai vu théoriquement comment un couple se construit, comment ça se passe quand il y a l'arrivée d'un enfant, comment est-ce que ça se passe quand un enfant grandit, quand il devient adolescent, quand l'enfant part, que devient le couple, et ainsi de suite. Donc, j'ai eu beaucoup de lectures, beaucoup de choses, beaucoup de patients aussi, que j'ai accompagnés à différents moments de leur parentalité, avant moi de devenir père. Donc ça m'a aussi permis d'avoir beaucoup de recul par rapport à ça. Ce qui me permet en fait de très bien vivre ma parentalité actuellement, je le trouve.
Est-ce que tu as toujours voulu être père? Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi?
Alors, ça n'a pas toujours été une évidence. C'était une non-question en fait à la base. Au début, je ne me posais pas la question. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me poser la question. Et à un moment donné où j'ai décidé, dans ma tête, j'étais prêt, et en fait, j'avais le sentiment de vouloir devenir père, et en fait, ça, c'était intéressant tout ce cheminement qui a pu se passer, et je pense que la question importante, c'est juste de réfléchir à un moment donné. À la base, c'était une non-question, puis après, c'est devenu une question, et là, c'est devenu intéressant de se dire, je veux ou je veux pas, mais juste essayer d'y penser un petit peu avant.
Alors, pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, avoir un enfant et mettre un enfant dans ce monde, ça n'est plus du tout une évidence. Pour vous donner quelques chiffres, selon un sondage IFOP réalisé en 2022, 30% des Françaises en âge de procréer déclarent ne pas vouloir d'enfant. Un sondage similaire qui avait été fait en 2006 avait révélé à l'époque que la maternité était un idéal pour 98% des femmes. Alors, est-ce que c'était un idéal ou est-ce que c'est qu'on osait moins dire qu'on ne voulait pas d'enfant? C'est difficile à dire, évidemment, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui a quand même changé sur ce sujet. Selon une enquête participative d'Arte réalisée en 2020, peut-être pas tout à fait représentative par ailleurs de la population française, 65% des gens considèrent que faire des enfants au XXIe siècle, c'est un cas de conscience. Les femmes sont seulement 25% à répondre que faire des enfants, c'est une évidence, contre 37% des hommes. Je vous propose d'écouter un premier témoignage d'une auditrice qui, visiblement, elle, comme toutes ces personnes qu'on vient de citer, n'a pas tout à fait envie de mettre un enfant dans ce monde.
Pour moi, le plus gros frein à la parentalité, c'est l'actu. Entre la planète qui va devenir inhabitable à cause des catastrophes naturelles qui se multiplient, ou la politique antisociale de plus en plus autoritaire de notre pays et la montée du fascisme, je n'arrive déjà pas moi-même à me projeter dans le futur, alors comment envisager d'y mettre un être que je devrais non seulement protéger, mais à qui en plus je devrais donner foi en l'avenir? Comment ne pas lui transmettre mon angoisse et mon absence d'espoir?
René, est-ce que ça, c'est des choses qui t'ont questionné avant de faire des enfants? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis encore aujourd'hui?
Ah bah bien sûr, je pense que c'est impossible en tant que parent de ne pas réfléchir à ça. Voilà, en ce moment, on sait qu'il y a des événements en Israël-Palestine. Moi, il y a beaucoup de parents qui m'en parlent. Ça nous prend aux tripes, en fait. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne sait pas trop. Mais quand on devient parent, quand un enfant est maltraité, il y a une identification souvent immédiate. Quand on a du mal à pas voir son enfant à la place de l'enfant qui n'est pas bien. Et puis, ben, effectivement, quand il y a un chaos climatique qui est clairement en place, enfin, il y a plein de raisons de penser que c'est chaud. Mais ce que je crois, c'est que déjà, il faut en avoir envie, tout simplement. C'est-à-dire, la question de l'angoisse, pour moi, quelque part, si elle est formulée, enfin bon, c'est à chaque personne de sonder un peu son désir ou son désir de ne pas avoir d'enfant. C'est une expression qu'a Fiona Schmidt, voilà, qui parle de désir de ne pas avoir d'enfant, et je trouve que c'est très bien de le formuler comme ça.
Fiona Schmidt, qui est notamment l'autrice d'un livre qui s'appelle « Lâchez-nous l'utérus ».
Exactement. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce que je crois, c'est que de toute manière, il faut forcément être un peu optimiste pour faire un enfant. C'est impossible de faire un enfant en se disant « je vais faire un enfant et en fait ça va être horrible pour lui, tout va être nul ». Un enfant, c'est forcément un peu d'espoir en soi et pour lui. Sinon, on ne le fait pas. Et puis moi, j'ai fini par résoudre cette question en me disant que bah, j'aime la vie. Voilà. Et que je trouve que même si mon fils devait... je sais pas, qu'il devait y avoir une apocalypse à ses 50 ans, ben, il aurait chanté, aimé, bougé, dansé, mangé. Enfin, je sais pas. Je trouve que la vie, pour moi, c'est un truc qui est tellement beau que ça vaut d'être vécu. Mais je dis ça à mon endroit, à moi. C'est ma réponse personnelle. Et je pense qu'après, il appartient à chaque personne aussi de trouver ses réponses. Et pour moi, c'est complètement OK de se dire, en fait, c'est trop pour moi déjà. Donc, je n'ai pas envie de ça. Et je trouve que c'est trop triste, trop sombre. En fait, enfin... Vraiment, on est tous différents et pour moi, il faut complètement banaliser le désir de ne pas avoir d'enfant parce que ça libère tout le monde en réalité. C'est-à-dire que si on commence à dire qu'on peut choisir en conscience de ne pas avoir d'enfant, ben en fait, c'est utile pour les gens qui font des enfants aussi parce que quand ils décident d'en faire, ils le font en conscience aussi. Donc, je pense que vraiment, c'est vers ça qu'il faut tendre collectivement, quoi.
C'est aussi important pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
Exactement.
Les problèmes d'infertilité, ouais. Aujourd'hui, c'est une personne sur six. Donc, il me semble que c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour créer un environnement qu'on veuille un enfant ou qu'on ne veuille pas d'enfant, et ben, c'est totalement OK. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je citais en introduction la manière dont la journaliste Salomé Sacquet a dû se défendre vis-à-vis d'un non-désir d'enfant. Il existe aussi, parfois, dans certains milieux, notamment très, très sensibles aux enjeux environnementaux, le contraire, en tout cas, un climat où on dit « Ah, je veux un enfant !» et on va vous répondre « Non, mais attends, c'est 58 tonnes par an et par bébé de CO2, comment tu peux faire ça ?» C'est des choses qui arrivent. Comment on répond à ça?
En fait, ce calcul, il est pas bon. On va reprendre les calculs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les populations qui ont le plus de taux de natalité sont celles qui polluent le moins. C'est-à-dire que les pays riches, et on le sait, sont ceux qui polluent le plus. Donc si on commence à réfléchir comme ça, ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'un enfant du Sénégal et un enfant de Turquie, un enfant états-unien, un enfant français n'ont pas le même bilan carbone. Et même aux États-Unis, selon qu'on soit dans une famille décroissante ou une famille où on adore polluer tout ce qu'on peut, eh ben c'est pas le même bilan carbone non plus. Donc en fait, ce que ça raconte, c'est que la question, c'est pas d'arrêter de faire des enfants pour des bilans carbone meilleurs, c'est plutôt comment on fait tous pour aller vers une transition énergétique et un monde meilleur. Et ça, en fait, on ne pourra pas en faire l'économie qu'on arrête de faire des enfants ou pas. C'est un paradigme qu'il faut globalement changer pour tout le monde. Enfin, on doit tous là repenser nos pratiques du quotidien. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que pour moi, il y a un problème aussi dans ce discours, c'est qu'il dépolitise la question de l'écologie et du désir d'enfant, enfin voilà, de tout ça. Tout simplement parce que, en fait, on le sait, ce n'est pas en arrêtant de se brosser les dents, enfin de faire couler l'eau pendant qu'on se brosse les dents, que ça va changer. On sait que les changements majeurs, en fait, ils sont politiques et on attend des mesures politiques. Donc, je ne dis pas du tout qu'un enfant actuellement ne produit pas une empreinte carbone dégueulasse. Je le vois bien chaque jour en jetant les couches de mon fils. Mais en revanche, ce que je veux dire, c'est que c'est à nuancer et c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. La dernière chose, c'est qu'un enfant, c'est aussi une liberté individuelle. On peut pas, enfin, les régimes qui commencent à dire « ne faites pas d'enfants » ou « en fait, faites-en qu'un ou deux », on sait qu'ils sont pas hyper sympas globalement d'un point de vue démocratique. Donc ça, c'est un truc à considérer, c'est qu'il faut pas mettre tout au même endroit en réalité.
Faire un enfant aujourd'hui, au-delà de l'empreinte carbone que ça pourrait représenter ou la capacité ou non à protéger cet enfant plus tard dans des situations politiques très compliquées, c'est aussi quelque chose qui coûte très cher. Il y a des chiffres qui sortent sur ces sujets assez souvent. On parle de 300 000 euros peut-être par enfant selon le Centre of Economic and Business Research au Royaume-Uni. Donc c'est à peu près 300 000 euros en gros entre la naissance d'un enfant et ses 21 ans. Donc c'est à peu près 1 200 euros par mois. En France, le ministère des Solidarités et de la Santé estime que le coût d'un enfant de sa naissance à ses 20 ans, c'est plutôt 180 000 euros. Ça fait quand même 750 euros par mois. Moi, j'avoue que je dis très souvent à mes amis, en fait, je ne suis pas assez riche pour avoir un enfant. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Bah, c'est une remarque très juste. Le prix des enfants, il coûte cher. Enfin voilà, c'est sûr. On va pas dire le contraire. Mais ça, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, qu'est-ce qui coûte cher? Je pense qu'il faut prendre différents sujets. Nourrir un enfant, pour moi, c'est pas ce qui coûte le plus cher, en réalité. Ça, c'est un petit budget en plus, notamment quand on va avoir du lait en poudre, etc. Mais en fait, quand on fait une plâtrée de pâtes, quoi, on peut... Enfin, voilà. Des cadeaux, ça, c'est pareil. Si on pense dans un point de vue décroissant, etc. Enfin, en fait, il faut pas oublier que mon fils, là, actuellement, qui a un an, il est ravi de jouer avec un rouleau de PQ. Hein. Enfin, donc, voilà. Enfin, ça, c'est aussi un truc à remettre aussi dans la balance. C'est qu'est-ce qui amuse un enfant, en fait. Enfin, et on peut être plus créatif. En revanche... Et c'est là que pour moi, il y a aussi un sujet politique. C'est quel système de garde on va pouvoir avoir. Et là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, une nounou, une crèche, ça peut coûter cher. Et clairement, il y a un gros problème en France. En fait, les gens qui ont des enfants dans la petite enfance, ils sont abandonnés, en fait. C'est-à-dire que de 0 à 3 ans, on laisse les gens dans la nature sans... Enfin, les aides ne sont clairement pas assez fortes, quoi. Et d'ailleurs, on sait que du coup, il y a beaucoup de femmes qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. Bon, ça, c'est un peu un truc que je veux dire beaucoup, je pense, pendant qu'on parlera. Mais c'est toujours les femmes hein, qui payent le prix, du coup, de toutes ces, comment dire, déficiences, enfin, choses qui vont pas. Donc là, typiquement, on voit que des femmes s'arrêtent de travailler tout simplement parce que, en fait, il y a un calcul qui est fait et qui est très simple. C'est que si elles s'arrêtent de travailler, ça coûtera moins cher au couple que de prendre une nounou. Et on sait que les hommes, je parle des couples hétéros, évidemment, en priorité, parce que c'est aussi en couple hétéro que les femmes sont les plus sujettes à des problématiques de ce genre. Mais, voilà. Enfin, en fait, quand un homme gagne plus, ben, du coup, c'est, ah, ben non, désolé, ma petite chérie, mais tu vas rester à la maison parce que c'est comme ça que ça va être le plus simple pour tout le monde.
Du coup, face à ce genre de situation, quelle stratégie féministe on peut adopter et bien pour justement changer ces rapports de force? Daniel, je sais que c'est un sujet qui t'importe particulièrement.
Alors effectivement, hein, comme tu disais René, c'est la charge mentale de l'éducation et de ça repose beaucoup sur les femmes. Et l'idée, c'est de dire, ben en fait, les hommes, vous êtes là aussi, on est là aussi dans les couples hétérosexuels. Donc c'est aussi à nous de dire, ben en fait, moi je vais travailler à 80% ou je vais travailler moins, je vais arranger mes horaires de travail pour récupérer les enfants à la crèche. Alors je suis médecin, j'ai un certain revenu qui est assez élevé par rapport à d'autres personnes, mais par contre, je fais en sorte de travailler à 80%, je fais en sorte de rentrer plus tôt du travail pour chercher les enfants à la crèche ou dans le mode de garde dans lequel ils sont. J'essaye à mon échelle de faire ça et j'encourage mes collègues hommes à passer à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants, pour justement dire que non, c'est pas que les femmes qui devraient être à temps partiel ou arrêter de travailler et ainsi de suite. Donc là, c'est la manière un petit peu dont on pourrait faire, c'est-à-dire que idéalement c'est quand même mieux d'être à deux pour élever un enfant dans l'idéal des choses.
Moi, je dis 10. On en reparlera.
Effectivement, hein, tout un village même. Mais dans la société dans laquelle on est actuellement, en général, c'est mieux d'être à deux. Et l'idée, c'est peut-être que les deux soient à temps partiel pour que chacun puisse s'épanouir dans son travail, mais aussi être là pour les enfants et que ce soit de façon alternative et que ben, chacun ait un manque de sommeil à un moment donné pour qu'ils comprennent l'autre et qu'ils disent « Ah, en fait, c'est ça ce que tu vis depuis 3 ans ».
Mais est-ce que ça, c'est une conversation qu'il faut avoir bien avant d'avoir un projet d'enfant? De se dire, OK, si un jour, dans la potentialité où ça arrive, j'aimerais qu'on mette en place ça et ci et ça. Parce que finalement, j'imagine que quand on se retrouve un peu comme ça, voilà, ça y est, on est enceinte, l'enfant arrive, bah, c'est trop tard.
Plus on arrive à se projeter dans ce qu'on a envie de vivre, moins on est surpris par des choses. Avoir un enfant, pour les gens qui ont des enfants, il y a de la surprise tous les jours. Hein. En fait, vous n'avez pas besoin, vous pouvez vous préparer autant que vous voulez. De toute façon, il y aura des surprises tout le temps. Donc, si on se prépare avec des choses qu'on peut gérer, ben, ça nous laissera les autres surprises, elles seront agréables. Tiens, mon enfant a dessiné sur le mur. Ça devient agréable parce qu'en fait, on n'est pas fatigué, parce que ben, en fait, on était à 80%, donc c'était le jour où on travaillait pas, et donc on était plus détendu, on a eu le temps d'aller faire les courses sans les enfants, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces surprises-là sont agréables, alors que dans un autre contexte, ben, ça peut être plus problématique.
L'une des choses, je pense, pour beaucoup de personnes, en tout cas, c'est mon cas à moi, j'avoue, qui nous empêche d'envisager des enfants, ou en tout cas qui freine ces désirs d'enfants, c'est la peur de transmettre un certain nombre de schémas toxiques, d'éventuels traumatismes. C'est une question dont on a un peu parlé en amont en préparant cette entrevue. René, toi, je sais que c'est pas une question que tu t'étais forcément posée.
Non, mais ça a été un problème. C'est-à-dire que peut-être que ça aurait été mieux que je me la pose avant. J'ai découvert ça, du coup... En même temps. Voilà. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce que j'ai découvert avec mon fils, bah, c'est que quand on a un enfant, on tombe sur l'enfant qu'on a soi-même été. C'est-à-dire qu'on va aller explorer ses propres traumas, ses propres modèles aussi, quoi. Et notamment, il y a un truc qui est le grand classique, c'est on a un enfant de 4 ans devant soi, son fils, et on se dit, non mais attends, mes parents, ils faisaient ça avec moi quand j'avais 4 ans, mais c'était ouf en fait, enfin, ça va pas du tout. Et là, je dis, enfin, ça peut être n'importe quoi, genre ils me donnaient des chocapicots au dîner. Mais si c'est un truc beaucoup plus vénère, en fait, ça peut être intense et difficile. Donc moi, c'est pour ça qu'un des conseils, je ne donne pas beaucoup de conseils parce que je trouve toujours ça compliqué. Disons que pour moi, il n'y a rien qui peut prévenir tout ce qui peut arriver dans une parentalité. Mais s'il y en a un que je pourrais donner, c'est de travailler sur soi plutôt avant d'avoir un enfant. Et après, de toute manière, personne n'est parfait. Et heureusement, parce que ce serait boring de ouf, en fait. Et un enfant, il fait avec ce qu'il a. Et il va lui-même être qui il est. Et en fait, ben voilà, mon fils, par exemple, il a des parents qui sont plutôt retardataires. Il dit, papa, il est toujours en retard. Et voilà, et je me dis, ben en fait, ça va le construire à sa manière aussi. Il sera qui il sera. À lui, au bout d'un moment aussi, d'aller contre ce truc-là, si ça le saoule ou pas. Et en fait, tout le monde est aussi sur son chemin. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi quelque chose où, à un moment donné, il faut aussi dédramatiser cette histoire et pas se penser tout puissant. Et c'est ça qui est fabuleux avec les enfants, c'est qu'ils nous rappellent en permanence qu'ils existent par eux-mêmes. Et qu'eux-mêmes, parfois, ça n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire qu'ils inventent des trucs, ils disent des trucs, ils font des trucs, ils sont des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec leurs parents. Et ça, c'est magnifique et super beau, et je pense qu'il faut s'accrocher à cette idée-là.
Toi, Daniel, est-ce que tu encourages tes patientes, par exemple, qui ont un désir d'enfant ou qui se posent la question, à peut-être faire une thérapie ou regarder un peu au fond de soi, regarder un peu ses schémas avant de se lancer?
Alors, s'ils viennent me voir, c'est qu'ils sont souvent déjà en processus de thérapie. Mais ce que j'encourage souvent à faire, c'est avant d'avoir des enfants et de partir à la rencontre de nos enfants, de ces nouvelles personnes qui arrivent, c'est peut-être de partir à la rencontre de nos parents, de voir qui étaient nos parents à l'âge... l'adolescence ou au début de l'âge adulte pour essayer de recontextualiser les choses. Mais c'est important, à mon avis, pour avancer ou pour être un petit peu plus prêt à accueillir ce nouvel être, c'est de partir à la rencontre de ses parents un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup vous aider.
Et aider à quoi? Par exemple, pardonner un certain nombre de choses, un certain nombre de souvenirs pour pas transférer ou transmettre des choses à ses enfants. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait, avec quand on part à la rencontre de ses parents?
Alors, je sais pas si on pardonne toujours, mais au moins on peut essayer de comprendre le contexte. Il y a des choses qui sont pas pardonnables. Il y a des choses qu'on n'arrivera pas à pardonner à nos parents parce que ils ont été maltraitants ou négligents. Peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à demander de l'aide, parce qu'ils n'ont pas les bonnes structures, parce qu'ils étaient isolés ou parce qu'eux-mêmes ont vécu des choses comme ça. Et donc, ils ont reproduit le schéma sans se poser la question. Mais là, l'idée, c'est de dire, OK, je vais essayer de comprendre le contexte. Et en comprenant ça... je vais essayer de peut-être ne pas reproduire ce qui, moi, m'a vraiment beaucoup marqué parce que ça m'a tellement marqué que maintenant, ça me bloque dans mon avancée d'adulte et peut-être de futur parent. Et encore une fois, l'idée, comme le disait René, c'est d'exprimer clairement ma pensée. Les enfants, plus il y a d'adultes ou de personnes autour d'eux qui vont agir de façon différente, plus ils vont pouvoir se dire « Ah ok, en fait, mes parents ne sont pas parfaits parce que ça n'existe pas et mes parents font des erreurs. Et par contre, cet adulte-là, il fait des erreurs dans ce domaine-là, mais il fait ça bien. Donc, je vais prendre ça chez lui. » Et donc, en tant que parent, se dire aussi que oui, je fais pas tout parfaitement, mais parfois je le confie à des amis, à l'autre conjoint, aux grands-parents et ainsi de suite. Et il fera pas exactement tout comme moi je fais, mais par contre ce que je fais mal, parce qu'il y a des choses que je fais mal, et l'autre ne les fera pas aussi mal que moi.
Donc, il y a un peu un enjeu de lâcher prise. Tout à l'heure, on citait la journaliste et essayiste Fiona Schmidt, et donc autrice d'un livre qui s'appelle « Lâchez-nous l'utérus ». Elle rappelle dans son livre que ne pas vouloir d'enfant, ça peut être très heureux, très léger, très joyeux, très serein. Ça me fait me poser la question de est-ce qu'on n'a pas un rapport un petit peu restreint à l'amour, à la transmission? On pense souvent, un argument quand on dit voilà, je veux pas d'enfant, c'est qui est-ce que tu vas aimer plus tard, comment tu vas transmettre qui tu es. Est-ce que c'est pas un peu restreint comme façon de considérer l'amour, la transmission?
Ah si, complètement. Moi, j'en suis convaincue. Et puis, je suis convaincue qu'on peut être très heureux sans enfant. En fait, le désir de ne pas avoir d'enfant, pour moi, il existe de manière autonome. C'est OK de ne pas vouloir d'enfant. Évidemment qu'on peut être heureux sans enfant. Enfin, un enfant, c'est un choix de vie aussi, hein. Et ça, enfin, je le disais tout à l'heure, enfin voilà, la fatigue, le sommeil, la disponibilité permanente. La sage-femme Anna Roy, que j'adore, dit que c'est 8 heures de plus dans une journée, un enfant. C'est difficile à se représenter quand on n'a pas d'enfant, mais il faut s'imaginer que moi, là, mes journées, elles commencent très tôt le matin, elles continuent la nuit. Le soir, je suis dans une sorte de marathon dans la maison. Enfin, c'est un petit chaos, une maison quand même avec des enfants petits. Donc tout ça, en fait, c'est des choix de vie. Et c'est... Mais il n'y a aucun problème à ne pas avoir envie de ça. Enfin, c'est OK. Enfin, voilà.
Justement, dans l'angoisse de la parentalité, il y a une grande question qui est est-ce que parentalité et épanouissement, c'est vraiment compatible ? Je vous propose qu'on écoute une auditrice qui a peur de ne plus avoir le temps pour rien.
La parentalité est quelque chose qui me fait énormément peur et sur laquelle je chemine doucement, surtout du fait du désir de mon copain d'avoir un enfant. Mais je freine des quatre fers car, outre les perspectives d'avenir peu réjouissantes, j'ai peur de n'avoir plus le temps de rien faire, d'être tout le temps épuisée, de ne plus pouvoir aller au ciné, lire ou me reposer. Et puis je suis prof. Et croyez-moi, gérer 30 à 35 élèves par classe nécessite tellement de patience que l'idée de devoir en faire preuve aussi à la maison me donne des maux de tête.
Alors René, dans ton livre, tu cites des chiffres qui viennent de la sociologue Christine Castellin-Meunier. 28% des hommes qui deviennent parents et 38% des femmes renoncent à sortir, ciné, spectacle, match, exposition. 24% des hommes, 54% des femmes abandonnent leur activité sportive, c'est énorme. 18% des hommes et 38% des femmes délaissent leur pratique artistique. Tu parles aussi d'une notion que je trouve hyper intéressante, c'est le consentement à être mère.
Ouais, alors j'en parle. Alors c'est un terme qui a fait un peu débat parce que ça pose plein de problèmes et je les comprends parfaitement. Donc maintenant, à chaque fois que je parle de cette histoire, je pose que c'est complètement un concept qu'on peut critiquer. En fait, moi, si j'ai utilisé ce terme, c'est parce que je voulais dire de manière solennelle, justement, qu'il faut reposer l'idée d'un choix en conscience de faire des enfants. Et le problème pour faire un choix en conscience, c'est qu'il faut savoir ce qu'il va y avoir, en fait, derrière. Et dans la parentalité, il y a toute une partie qu'on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que typiquement, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça va générer psychologiquement, on en parlait en nous. Mais il y a toute une partie de choses qu'on peut savoir. Enfin, on peut savoir, effectivement, qu'un enfant, ben, ça ne fait pas dormir. on peut complètement savoir que ça fait justement baisser les pratiques de loisirs. On peut savoir que les femmes s'occupent deux fois plus des enfants que leurs conjoints. On peut savoir que sur Doctolib, 80% des rendez-vous qui sont pris pour des enfants sont pris par des femmes. On peut savoir tout ça. Et moi, c'est pour ça, en fait, que j'ai fait ce livre aussi, c'est que j'en ai marre que les femmes se fassent bananer. C'est qu'à la fois, on leur dit « il faut absolument que tu fasses un enfant. Si tu ne fais pas un enfant, tu seras rien. » Parce que, en fait, les femmes existent par leur utérus, visiblement. Et une fois qu'elles y sont, en fait, ce qu'elle découvre, c'est une sorte de petit enfer parfois. Et pour rebondir sur ce témoignage, j'ai envie de dire oui. Oui, quand on a un enfant, souvent, parfois, ça dépend de l'enfant, ça dépend de qui on est. C'est difficile de faire des choses. On n'est plus disponible de la même manière. Oui, c'est une lutte permanente. Enfin, moi, je peux en témoigner. En ce moment, j'ai un petit d'un an qui est en train de faire ses dents. Je me sens sur un fil, en fait, d'un point de vue dépressif, quoi. Parce que je dors pas bien, que c'est très compliqué. Et en fait, ben, moi qui adore faire la fête, par exemple, j'ai pas fait la fête depuis juillet.
Ça fait 4 mois.
Ça fait 4 mois, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop sans un dance floor. Donc voilà, c'est une lutte permanente. Et je sais que ben, voilà, le 3 novembre, je vais danser toute la nuit. Ce sera mon moment. Et surtout, en fait, ben, je sais que ça va me coûter aussi. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est que le problème, c'est pas juste de se récupérer, c'est aussi qu'est-ce que ça coûte. C'est-à-dire que là, par exemple, du coup, je vais faire garder mon petit et mes petits, parce que j'aurai les deux à ce moment-là. Et ben, je sais que derrière, il y aura aussi la question de la fatigue. C'est-à-dire que je vais me rajouter de la fatigue. Mais je suis dans une balance où je me dis, OK, en fait, ce que je vais gagner en joie, ce que je vais gagner en récupération de moi-même, en identité, parce que c'est moi, c'est mon identité, je fais la fête, voilà. Mais en fait, tout est complexe, ambivalent, et c'est pas simple de se récupérer. Donc moi, je suis là pour dire, oui, c'est une peur qui est légitime. Mais parfois aussi, la peur, ça protège. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est que quand on a peur de quelque chose, je crois qu'on a conscience de quelque chose qui met en danger notre intégrité et qui peut arriver. Et si on le sait, on a plus de chances de pouvoir en prendre soin quelque part. Donc c'est bien d'avoir peur aussi. Voilà. Pas trop, mais un peu.
Tu parles aussi dans ton livre, enfin, t'as une image qui est que parfois tu passes devant des immeubles et tu regardes des fenêtres et tu dis « Ah, j'imagine dans chaque appartement une mère totalement esseulée avec son bébé ». C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, en Occident, en France en tout cas, on est souvent loin de ses parents. Moi, par exemple, mes parents ils vivent à 600 km, je pourrais pas leur confier mon enfant comme ça au débeauté s'il y a un problème. Est-ce que c'est pas aussi ça le sujet ? Est-ce que c'est pas aussi qu'on est très seul, beaucoup plus seul qu'avant finalement ? Parce que, par exemple, un des reproches qu'on fait souvent à nouveau à Salomé Saké, par exemple, que j'étais tout à l'heure, c'est de dire « Ah, c'est hyper égoïste, les gens ont toujours fait des enfants dans des difficultés bien plus grandes que la tienne, dans des situations bien plus difficiles que la tienne. » Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'en fait, on n'est pas dans le pire contexte possible pour faire des enfants en termes de solitude ?
Ah mais si, mais en fait, pour moi, la façon dont on fait des enfants aujourd'hui, c'est une forme d'hérésie, et il faut dire, pour moi, ici. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ça n'est pas du tout le cas. En fait, la façon dont on laisse une jeune mère qui vient d'accoucher toute seule avec un bébé, il faut s'imaginer. En fait, les gens qui n'ont pas de bébé, c'est difficile à imaginer, mais un bébé, en fait, quand il naît... Parfois, on n'a même pas le temps de se faire à manger, on n'a pas le temps de prendre une douche. C'est des journées entières à essayer parfois de soulager un bébé qui pleure, qui n'est pas bien. Enfin, moi, j'ai eu un bébé qui avait un RGO, donc c'est un reflux gastrique œsophagien. Et c'est un bébé que je ne pouvais pas poser. J'avais cette sensation d'être super nulle. Enfin, voilà. Donc, en fait, tout ça ne serait probablement pas arrivé si j'avais habité le Sénégal, par exemple. Je dis le Sénégal parce que ma mère est d'origine sénégalaise. Et en fait, moi, quand je suis devenue mère, j'ai compris pourquoi ma mère rentrait au Sénégal à chaque fois qu'elle a accouché. En fait, pendant toute, jusqu'à ce que je devienne mère, je disais oui, elle avait envie d'être avec sa maman. Elle n'avait pas envie d'être avec sa maman. Sa mère lui prenait le bébé pendant 2 mois et ma mère m'a même dit, en fait, au bout d'un moment, je lui ai dit, en fait, tu me saoules, vas-y, j'ai envie de m'en occuper aussi. C'est un adage qu'on répète beaucoup, il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai, on peut complètement être solidaire de parents et être là pour des enfants aussi, être présent, être un référent, ce que tu disais tout à l'heure, sans être soi-même parent. Et au contraire, c'est super, c'est hyper important d'avoir ces modèles-là dans son entourage.
Alors justement, sur ce rôle un peu d'allié de parents, finalement, on peut aussi, si on décide de ne pas avoir d'enfant ou d'en avoir d'ailleurs, on peut aussi jouer ce rôle d'allié de parents. On est aussi dans une culture où c'est pas si simple de demander de l'aide. On va y revenir dans un instant, juste après une petite pause.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
J'avais envie de vous raconter une anecdote personnelle. Pas très loin de chez moi, vit un couple hétéro qui vient d'avoir un enfant. Et je les ai croisés avec leur tout petit bébé de 3 jours. Et un peu, je crois, consciente justement de ces sujets, du fait qu'on est parfois très seul face à la parentalité avec un tout petit bébé, j'ai proposé mon aide en disant, voilà, en passant, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez besoin un jour, je sais pas, d'une course ou quoi, n'hésitez pas. Et en fait, je ne m'y attendais pas, mais la réaction d'un des parents, ça a été de le prendre, en tout cas, de façon un petit peu sèche, en disant, non, je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'aide. Et j'avoue que ça m'a fait me questionner sur, on est quand même aujourd'hui dans une situation où on est incapable, c'est pas naturel de demander de l'aide, comme si c'était tout à fait normal d'assurer la survie d'un tout petit être. Et du coup, Daniel, j'ai eu envie de te demander de nous apprendre, de nous transmettre des outils pour peut-être réapprendre à demander de l'aide, qu'on soit parent ou pas d'ailleurs.
Effectivement, parce que demander de l'aide, c'est ça concerne tout le monde et c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que quand on demande de l'aide, ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire quelque chose et qu'on se sent faible entre guillemets ou qu'on arrive, ouais, qu'on est incapable. Et c'est un sentiment dans le monde dans lequel on vit qui est assez intolérable où on nous dit non, on est capable de tout faire, on est capable d'avoir des enfants, de travailler à temps plein, de séduire, de s'épiler, de se maquiller, enfin de tout faire toute seule dans son coin. Non, c'est pas vrai. Alors le mieux, c'est de pouvoir vraiment se rendre compte de 1, c'est pas possible, et de 2, demander de l'aide, ça peut vraiment nous faire du bien. Pour demander de l'aide, ça nous fait du bien à nous, mais ce qui est aussi assez intéressant quand on demande de l'aide, c'est que la personne à qui on va demander de l'aide, elle va se dire, ah ben tiens, cette personne-là, ce médecin psychiatre avec qui je parle me demande de l'aide à moi. Donc ça veut dire que moi, je peux faire quelque chose pour le venir en aide et ça va donner un sentiment d'utilité à cette personne. Et donc cette personne va se sentir bien, se sentir utile. Donc en admettant le fait d'avoir besoin d'aide, on va aussi créer chez l'autre personne un sentiment de capacité, d'être en capacité de faire quelque chose et d'aider les autres. Donc moi, ce que je vous propose à toutes et à tous, c'est de réfléchir à quelque chose que vous faites quasiment quotidiennement, assez facilement. Une fois que vous avez pu un petit peu penser à cette chose-là, j'aimerais que vous puissiez voir avec quelle personne proche de vous vous pourriez demander de l'aide. Et l'idée, c'est de demander de l'aide pour cette tâche assez facile que vous arrivez à faire habituellement et demander à ce que ce soit l'autre personne qui le fasse. En lui demandant, tiens, est-ce que aujourd'hui, tu peux m'aider à me servir un verre d'eau, ou est-ce que tu peux m'aider à rouler ma cigarette, ou est-ce que... Alors que c'est quelque chose que la personne sait très bien faire habituellement, mais là, on demande de l'aide. Quand c'est fait de façon, bien sûr, positive et pas juste en demandant, en mettant les formes, donc on demande correctement, eh ben, on va percevoir que, ben, un, on arrive à demander de l'aide, de deux, que la personne en face, quand on a confiance en elle, eh ben, elle va en général nous aider, puisque c'est une tâche simple qu'elle va réussir à accomplir, que ça va pas être mieux fait ou moins bien fait, que ça va être fait peut-être d'une façon un peu différente, mais que ça va être fait, et que ça va aussi nous soulager et nous aider. Est-ce que toi, tu avais pensé à quelque chose, par exemple, que tu fais assez facilement, que d'autres personnes pourraient faire autour de toi, qui au final pourraient te soulager et t'aider, et au final que la personne, elle se sentirait... valorisé par cette demande-là?
Moi, ça serait beaucoup autour des enfants. Mais c'est vrai que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le premier exemple qui m'est venu, c'est changer la couche de mon fils. Et en fait, je dois dire, et c'est pour ça que c'est un débat en féminisme de dire ne parlez pas de lâcher prise. En fait, la charge mentale, c'est pas une question de lâcher prise. Voilà. Mais là, typiquement, je vois bien que si je devais demander à quelqu'un de changer la couche de mon fils, automatiquement, il y a une sorte de petite voix dans ma tête qui dit oh, est-ce que ça va bien être fait? Enfin, tu vois, est-ce qu'il va pas être mal fagoté, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un travail sur soi pour se dire ce que tu disais très justement et qui est hyper important, ça va être fait différemment et il faut accepter même que ça soit peut-être moins bien fait que ce que tu estimes être bien fait, parce que sinon, du coup, tu deviens la personne référence compétente, machin, et en fait, tu t'enfermes dans un rôle aussi, quoi.
Et est-ce que justement, dans le fait de réapprendre à demander de l'aide et en fait, plutôt dans sa tête, en quelque sorte, de changer son imaginaire en se disant moins je suis seule responsable de mon enfant, mais on a dit tout à l'heure, tout un village pour élever un enfant. On peut parler d'alloparentalité, en fait, le fait de considérer que plusieurs personnes peuvent élever un enfant, pas seulement peut-être deux parents. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément subversif et incroyable à se dire participons tous et toutes transformer ça, justement, à transformer ces logiques, à se dire tout à coup, est-ce que moi, qui n'ai pas d'enfant, qui n'en veux pas, je ne peux pas tout à coup me sentir investie d'une responsabilité à aider mes copines ou mes copains qui ont des enfants un petit peu à participer, à me sentir pas forcément une mère, mais une tante, une sorte de marraine.
Ah mais pour moi c'est complètement révolutionnaire en fait. Parce que quand on commence à parler de ça, en fait, ce dont on parle, c'est la question des solidarités. Et tout à l'heure on parlait de solutions, mais pour moi la solution politique, en fait, c'est une solution profondément anticapitaliste. Elle va y arriver. Profondément anticapitaliste. C'est que, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on va réinventer des solidarités et ce, contre un système qui n'est fondé que sur de la productivité. Un bébé, comme une vieille personne, et j'adore faire ce lien parce que je trouve qu'il est hyper pertinent, on le voit notamment dans les problèmes qui sont liés aux EHPAD, mais aussi aux crèches où il y a de la maltraitance parfois sur des enfants ou sur des vieilles personnes. Ça n'est pas productif. Enfin, ça se saurait s'ils ramenaient de l'argent à la maison, les bébés. Non, ils ne ramènent pas d'argent. Donc,
les bébés voilà. Ne servent à rien.
Les bébés ne servent à rien. Et c'est ça qui est génial, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et en fait, si on n'était pas complètement focus sur l'idée de produire, probablement qu'on pourrait s'organiser différemment. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est réinventer des solidarités. Après, pour ce que tu disais sur la question du rôle, une marraine, de parents, pour moi, c'est des discussions à avoir, en fait. Vraiment de parler avec ses amis. Et moi, c'est aussi pour ça que je parle et que je suis hyper heureuse de parler là ce soir devant des gens qui probablement désirent ne pas avoir d'enfants. C'est que pour moi, on peut complètement réfléchir à tout ça ensemble. Et c'est quelque chose qu'on a perdu en fait en France et qui est complètement naturel dans d'autres pays. Je donne un exemple. Mon fils est en garde partagée et aujourd'hui, quand je l'ai amené dans la maison des parents, puisqu'il est gardé avec une petite fille, il y avait le grand frère de la petite fille qui est là aussi parce que c'est les vacances. Bref. Et en fait, le gamin a fait une connerie, il a tapé sa sœur. Et en fait, là, la nounou qui était en train de s'occuper de mon fils, lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, je voyais bien que lui, il était un peu dans un truc où comme elle, elle était occupée, qu'elle ne pouvait pas pleinement en fait, être dans une attention totale à lui dire qu'il venait de faire une connerie, il était un peu instable. Et en fait, je lui ai dit « En fait, ce n'est pas du tout possible ce que tu viens de faire là. Enfin, ça n'est pas possible. Tu ne tapes pas et tu fais pas mal à ta sœur comme ça. »
Donc, c'est au petit garçon que tu as dit ça.
J'ai dit ça au petit garçon. Et j'ai senti qu'il avait un peu un truc de genre oh « En fait, si elle le dit, c'est que vraiment, j'ai fait quelque chose de pas génial, génial. » Parce que moi, enfin, jamais je lui parle comme ça, en fait. C'est pas mon fils, c'est le grand frère de la petite fille avec laquelle enfin, avait gardé mon fils. Mais pour moi, c'est hyper important. Et je dînais avec des copains l'autre jour, et un copain me racontait, il a pas d'enfant, hein, comment il avait sermonné une petite en le disant, parce qu'elle était en train... Son père venait de lui dire « Va pas dans la piscine. » Et en fait, elle a attendu que tout le monde ait le dos tourné pour y aller tranquillement, en mode « Poupiloupiloupiloup. » Il lui a dit « Waouh, mais qu'est-ce que tu fais en fait ? Ton père vient de te dire de ne pas faire ça. » Et en fait, la petite a été un peu étonnée. Et pour moi, évidemment, il y a la question de la bienveillance, de comment on dit les choses, enfin voilà, de pas malmener l'enfant, etc. Mais pour moi, c'est profondément bienveillant et c'est du soin en fait que de poser un cadre à un enfant. Il en a besoin en fait. Il a besoin de savoir que ben non, même quand ton père t'a dit de pas aller dans la piscine et que tout le monde a le dos tourné, t'y vas quand même pas. C'est la base.
Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas la peur d'être un peu intrusive quand comme ça on prend la responsabilité, on prend une décision qui est de gérer l'enfant de quelqu'un d'autre quoi.
Mais là pour moi c'est du danger même. Enfin tu vois, il y a un truc qui est même pas. Enfin voilà. Enfin tu peux en parler aussi en tant que père.
Ben, en fait là la question c'est de dire que il y a un enfant qui est un être en construction et qui ne comprend pas toujours tous les dangers et que il y a des adultes autour et tous les adultes sont responsables de cet enfant. On ne cherche pas, on ne va pas attendre que ce soit les parents qui disent quelque chose. Non, tous les adultes qui sont autour peuvent sauter dans la piscine pour sauver l'enfant qui est en train de se noyer. On ne va pas attendre. Bah tiens, qu'est-ce qu'il fait le père là ? Pourquoi il est encore aux toilettes ? Oh, c'est pas possible, son enfant se noie. Bah, en fait, non, on a le droit d'y aller. Eh ben, c'est exactement la même chose pour des situations plus banales où l'enfant casse quelque chose, où l'enfant fait quelque chose. On a le droit de reprendre un enfant, de lui montrer un cadre par rapport à une bêtise ou quelque chose qu'il a mal fait, ou aussi on a le droit de féliciter un enfant qui n'est pas le nôtre quand il a fait quelque chose de bien, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours là que pour le négatif. On peut être là pour dire « Ah ben tiens, félicitations pour ce que tu viens de faire, tu as réussi à te servir un verre d'eau sans en mettre partout à côté, c'est très bien, c'est pas mon enfant mais je lui dis quand même. »
Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, pour moi c'est hyper important ce que tu viens de dire, parce que prendre en compte aussi les réussites de l'enfant, mais comme ce qu'il rate, en fait, c'est juste... Enfin, le mettre à sa bonne place, qui est une place de personne, en fait. C'est-à-dire que à se dire « Attends, je suis intrusive, donc en fait, j'ai presque pas avoir d'interaction aussi avec cet enfant », je trouve qu'on ne le considère pas du tout. Enfin, il y a quelque chose pour moi où les enfants sont des personnes. Alors, bien sûr, ils ne sont pas aussi responsables et compétents sur plein de choses que des adultes, mais c'est hyper important de les considérer comme ça et d'avoir des interactions normales, en fait, avec eux, quoi.
Et je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à une petite anecdote où, il y a quelques années, je n'avais pas encore d'enfants. J'allais chez ma cousine qui a 4 enfants et elle m'a dit... Ah, c'est trop bien avec toi, Daniel, parce qu'en fait, quand tu rentres dans la maison, tu dis bonjour aux enfants et tu parles avec eux. J'ai plein d'amis qui viennent et qui parlent que à mon mari et à moi. Parce qu'on est des adultes, les enfants, on leur parle pas. Et moi, ça m'a un peu interloqué parce que je fais ça avec toutes les personnes. En fait, je parle à toutes les personnes que je rencontre, avec qui j'ai des interactions. Et j'étais surpris qu'en fait, il y a des gens qui ne dialoguent pas avec des enfants parce que bon...
J'avoue que moi, c'est un peu mon cas. Je vais être honnête avec vous. J'avais envie de vous, simplement sur ce truc des nouvelles formes de parentalité, de vous conseiller 2 œuvres que je trouve chouettes pour aller un peu plus loin, pour s'autoriser, y compris quand on est un couple hétéro, à repenser peut-être ces formes de parentalité. C'est un livre de Gabriel Richard qui s'appelle « Faire famille autrement », publié chez Binge Audio Edition, et une série documentaire sortie chez France TV Slash qui s'appelle « Faire famille » de Océan, c'est la saison 3, qui sont, je pense, des œuvres hyper importantes pour se réveiller un petit peu, se rendre compte qu'en fait, il y a 1000 manières de faire famille, 1000 liens de solidarité, 1000 choses à tisser pour que ce soit un petit peu plus chouette, un petit peu plus facile, un petit peu plus reposant. Pour autant, il est vrai que malgré ça, il y a une conversation, un tabou qui a été levé ces dernières années, qui est celui du regret maternel. Et je pense que c'était important d'en parler. Depuis 2015, il y a un livre qui s'appelle « Le regret d'être mère », écrit par une sociologue israélienne qui s'appelle Orna Donat. Et puis, avec le livre « Mal de mère » de Stéphanie Thomas, sorti en 2021, il y a plus de personnes, notamment des femmes, qui disent « Je regrette d'être mère ». Je vous propose qu'on écoute un témoignage.
Je suis parent solo de 2 enfants dont le père est décédé. Je vis intensément le regret maternel. J'aime mes enfants et je donnerai tout pour eux, mais si c'était à refaire, je le referais pas. Ce n'est pas eux le souci, ni moi d'ailleurs. C'est ce rôle qui prend le pas sur tant d'autres choses, qui enferme dans des attentes sociétales qui pèsent lourd. C'est cette responsabilité-là.
Je regrette pas d'être parent, je regrette d'être mère. Si c'était à refaire, peut-être que je le referais, mais pas dans les mêmes conditions. Le postpartum a été un océan de douleur, de fatigue et de solitude. Le contexte de Covid n'a pas aidé. Devenir mère, ça a été et c'est encore l'épreuve la plus difficile du monde pour moi. J'ai perdu le contrôle de mon corps pendant la grossesse, et même encore maintenant, 3 ans après, je suis fatiguée tout le temps. Je n'ai plus le temps pour rien. Je suis débordée, tout est une montagne, je dois penser à 1000 choses. La charge parentale se surajoute à toutes les autres. Les injonctions d'être une meuf sympa, bonne, jeune, cultivée, de trouver le temps de sortir, de voir ses copines, d'appeler sa mère, de faire tourner les machines, manger sainement, faire du sport, continuer à désirer et être désirable.
René, comment on fait si on ressent ça ?
Pour moi, c'est une question très politique, le regret d'être mère. Est-ce que les femmes regretteraient autant si elles se faisaient beaucoup moins bananer ? C'est ça le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a tout un truc de société à réfléchir politiquement, quoi. C'est pas normal que les femmes, en fait, soient autant en responsabilité de leurs enfants. Je le dis parce que je trouve que dans le regret, pour moi, il y a une forme de psychologisation. Je sais pas si ce mot existe, mais je le pose là.
Si, si,
c'est OK. Oui, voilà. De la situation qui est aussi une situation purement politique, en fait. C'est-à-dire que les femmes se retrouvent toutes seules en congé maternité. Pour rappel, c'est 28 jours pour un homme, enfin pour un père, pour le coparent, quand voilà, on est dans une famille queer. Et les femmes, je sais plus l'aider là, mais bon, en gros, c'est à peu près 3 mois, je crois, après l'accouchement. Juste rien que ça, déjà, si on avait le même congé maternité, paternité, coparent, en fait, ce serait pas la même situation. Donc c'est vraiment, enfin pour moi c'est juste parce que il peut y avoir une culpabilité à se dire oh là là mais je suis nulle, moi je regrette, les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Les autres y arrivent déjà, on sait pas hein, ce qui se passe dans leur maison. Ensuite encore une fois, bon, là, je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait on n'a pas toujours été dans des systèmes aussi hérétiques en fait en termes de parentalité. Il y a pas si longtemps encore, dans les villages les gens cédaient. Moi j'ai eu des anecdotes assez fabuleuses de mères qui viennent d'accoucher et à qui tout le monde va apporter un repas et en fait ça c'est super important. Comme on n'a pas le temps de manger, quelqu'un qui vient avec un repas, il faut arrêter d'offrir des doudous, il faut offrir des repas. Vraiment, je le dis toujours, moi, il faut offrir des lasagnes aux gens qui viennent d'accoucher, en fait. C'est ça dont ils ont besoin. Un doudou, franchement, bon, ben, c'est cool, mais il y en a 10 000 déjà, quoi. Non, ce qui est trop bien, c'est des lasagnes, en fait. Donc, et ça, en fait, tout ça, pour moi, ça passe par des informations qui permettent, du coup, de comprendre. Voilà, je dis ça pour le regret, pour essayer de, voilà, de dédramatiser aussi ce sentiment qui, en fait, est un sentiment éminemment lié à comment sont traitées les femmes dans la société aujourd'hui.
Daniel, comment est-ce qu'on peut être aidé ? Comment est-ce qu'on peut avancer sur ces questions-là ?
L'idée, c'est de réussir un petit peu à voir quelles sont les personnes ressources autour de nous. Quels sont les proches qu'on a, en qui on a confiance et à qui on arrive à demander de l'aide et aller vers eux, leur demander un petit peu de soutien, leur demander est-ce que tu peux m'aider à préparer un repas ou est-ce que tu peux surveiller mon enfant pendant la sieste, comme ça moi j'ai le temps d'aller faire mon activité ou de faire des choses. Et quand il se réveille, tu fais 2-3 choses que je t'indique et ainsi de suite. Et moi je peux prendre du temps pour moi. Donc demander de l'aide à des proches, ça c'est la première étape. Et après, il faudra se tourner vers des professionnels. Et dans ce cas-là, il y a différentes choses qui existent. Pour les parents, il y a ce qu'on appelle le LAP. Donc, c'est l'acronyme de lieu d'accueil parent-enfant. Donc, comme son nom l'indique, c'est un endroit où il y a plusieurs parents qui se réunissent et qui ont des enfants. Et en fait, ça permet d'être à plusieurs et que les enfants soient ensemble. Ça permet d'échanger sur des choses qu'on vit, sur le manque de temps, sur le fait qu'on n'a pas réussi à prendre de douche depuis 3 jours. Et on se dit, en fait, on est plusieurs à être dans ce cas-là, et ça nous rassure. Et souvent, il y a des professionnels qui sont là aussi, des psychologues ou des gens de la petite enfance qui peuvent nous donner des conseils ou nous aider ou nous orienter. Il y a aussi ensuite la PMI, la protection maternelle et infantile, qui peuvent nous aider quand on a des difficultés avec des enfants, quand on est dans un épuisement pour trouver de l'aide pour de la garde d'enfants et ainsi de suite. Et puis après, c'est les médecins généralistes et les psychologues et les psychiatres quand il y a d'autres choses un petit peu, si on est dans une dépression vraiment du postpartum ou d'autres choses comme ça.
René ?
Ce que je voudrais dire, c'est que le regret, c'est aussi un sentiment auquel on n'est pas tous, et pareil, je parle aussi sous le regard expert de Daniel, mais tout le monde n'est pas soumis au regret de la même manière. Enfin, moi, par exemple, ou alors peut-être que je suis complètement dans le déni, mais je crois que je suis quelqu'un qui regrette assez peu. J'ai une petite tendance à foncer, à me dire « Ok, c'est bon, j'ai fait ce choix, tac, tac, je regarde pas en arrière. » Mon mec peut complètement être dans la nostalgie ou dans le regret. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que on n'est pas tous pareils, tout le monde ne va pas ressentir la même chose. Et peut-être que moi, ce que j'appelle être sur le fil, d'autres personnes vont appeler ça regret. Et en fait, c'est la même réalité. Donc, faire attention aussi, ce mot fait très peur. On se dit, mais c'est effroyable de regretter. Mais est-ce que ce sera, je dis n'importe quoi, mais si quelqu'un d'autre fait un enfant, est-ce que ce sera ce ressenti? Et donc, ces mots, enfin, c'est, tout ça est complexe en réalité.
On a le droit aussi de regretter à certains moments. Oh là, j'aurais bien aimé pouvoir faire encore des grasses maths. Mais en fait, ben oui, j'ai décidé de faire des enfants. J'y ai réfléchi un petit peu avant. Donc, je sais que bon, ben, les grasses maths, ça ne sera plus avant un certain temps, leur adolescence peut-être. Et en fait, ce n'est pas grave. On a le droit de se dire, bon, ben, en fait, oui, ben, j'avais peut-être pas suffisamment pensé à cette partie-là. Je regrette un petit peu ça. Mais parmi le regret, il y a aussi d'autres choses qui sont très bien. Il y a d'autres choses aussi agréables qu'on peut vivre à côté. Et on a le droit de regretter certaines choses et puis d'apprécier d'autres choses. Tout n'est pas dans un seul moule à chaque fois. Et encore une fois, on peut regretter juste après l'accouchement et puis après être très heureuse un mois après, par exemple.
Alors, je vais me tourner vers le public. Est-ce que vous avez des doutes quant à la parentalité, des questions, des... Voilà, profitez de la présence de nos experts, parents et experts et expertes, pour répondre peut-être à vos questions.
Bonsoir. Moi, j'ai énormément de réactions et de questions, mais je vais essayer d'en choisir une. Quelque chose qui me travaille, et je ne suis pas parent pour l'instant, et il y a peut-être peu de chances que ça soit le cas, mais quelque chose qui me fait peur, c'est cette impression, et je ne sais pas si c'est un mythe que j'ai tellement intégré que j'ai l'impression que c'est mon ventre qui parle, ou si c'est quelque chose que je ressens tellement profondément qu'il faut que j'en prenne soin, mais c'est la peur de passer à côté de la plus grande expérience de la vie, et de la plus belle occasion de sortir tout l'amour que j'ai en moi, par exemple, et que cette impression qu'il n'y aura pas d'autre dans la vie, d'autre, ça sera toujours quelque chose un petit peu moins, même si je peux avoir des neveux, je peux faire des activités fantastiques et peut-être m'occuper d'enfants, mais comme si quelque chose en moi est persuadé que ça sera toujours un chouïa moins que si j'avais donné la vie et si je l'avais protégé moi-même. Et je me demande si je suis victime d'un mythe, ou que c'est vraiment le fond de mon être qui parle. Je vous pose une question difficile, mais je pense derrière ça, ça doit concerner beaucoup de gens, je pense.
Alors moi, ce que ça m'évoque directement, c'est que, en fait, dans une vie d'homme ou de femme, ou de non-binaire, qu'importe, il y a tellement de choses à côté desquelles on va passer. Enfin, moi, je crois que je sauterai jamais en parachute. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, je serai jamais hôtesse de l'air. Je sais pas pourquoi je parle que de trucs qui sont dans l'air. Mais en tout cas, enfin... Pour moi, c'est un choix, en fait, à faire en conscience. Je ne vais pas mentir, évidemment, avoir un enfant, c'est une dose d'amour qui est très, très incomparable, c'est vrai. Mais si on a envie de remplir sa vie d'autre chose, voilà, enfin, c'est complètement OK. Mais c'est là que ça devient très intéressant, c'est que la réponse, elle est en chaque personne. Et personne ne pourra te dire, tu passes à côté de quelque chose. En fait, c'est entre toi et toi-même. C'est, est-ce que je suis prêt à passer à côté de ce truc-là ? Parce que peut-être que ce sera le cas, effectivement, et peut-être que c'est la plus grande dose d'amour qu'on a jamais dans une vie, j'en sais rien. Ça dépend des gens aussi, enfin voilà, ou pas. Et en fait, ça, c'est un choix tellement personnel que finalement, la réponse est en toi.
Une autre question ?
Moi, c'est plus pour toi, René. C'est un peu, enfin, t'es pas obligé d'y répondre si t'as pas forcément envie, mais malgré tout ce que t'as vécu avec la première grossesse et l'arrivée de la parentalité, qu'est-ce qui fait qu'on se dit qu'on en fait un deuxième ?
Eh ben, c'est une super question parce que franchement, ça a été très compliqué cette histoire. Je savais, ben, un peu ce que tu disais dans mon ventre, mais dans mon ventre, j'ai aussi envie d'avoir un troisième enfant alors que je ne dors pas et je me dis que je suis complètement folle. Je ne ferai pas de troisième enfant, je m'en convainc. Mais je savais que pour moi, la fratrie, c'est quelque chose de très important. Donc je sais très bien qu'on peut être heureux en étant fils unique ou fille unique. Mais moi, j'ai un frère et une sœur qui sont extrêmement importants dans ma vie. Et dans les moments les plus difficiles, en fait, on était tous les trois, quoi. Et donc pour moi, c'était important d'offrir ça pas juste à mon plus grand-fils, mais aussi à celui qui allait venir. Je trouve ça super important. Et puis, en fait, il y a une psychologue que j'ai interviewée pour mon livre qui m'a dit, parce que je lui ai expliqué le projet du livre, donc qui était vraiment de prévenir les gens de tout ce qui se passait et qu'on ne disait pas sur la parentalité, voilà. Et elle m'a dit, mais en fait, vous faites ce livre pour pouvoir faire un deuxième enfant. Et je me suis dit, gna 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 gna. parce que c'était vrai. Et voilà, je pense que j'ai fait un chemin personnel voilà, qui a fait que je me suis réparée comme j'ai pu de cette première maternité. Et je dis ça, et c'est hyper important pour moi de le dire, qui a par ailleurs été merveilleuse à plein d'endroits. Enfin, il m'est arrivé des trucs extraordinaires dans cette première maternité. Mais vraiment, la parentalité, et ça, je connais pas de parents qui disent le contraire, je crois, mais c'est des montagnes russes, quoi. C'est-à-dire qu'on monte très très haut, et puis on redescend en mode genre, mais en fait, la vie est un cauchemar, c'est horrible, c'est détestable. Et on va remonter, mais tout l'enjeu, je pense, est de se stabiliser un peu comme on peut, quoi. Donc voilà.
Une dernière question ?
Alors moi, en fait, j'ai une question, c'est que je suis, par rapport à moi. Moi, je suis dans une famille, on est 8 frères et sœurs. Dans une famille totalement hétéronormée. Je suis le troisième enfant. J'ai été élevé dans le sens de faire un enfant, faire une famille, construire quelque chose, c'est hyper important. J'ai vu du coup mes grands frères et sœurs, mes petits frères et sœurs, construire tout ça. Moi, l'envie d'avoir un enfant, ça a été ultra présent pendant des années dans moi. Mais encore aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je le veux vraiment pour moi ? Ou est-ce que je le veux parce que j'ai été dans une famille en fait totalement qui m'a mené dans cette direction-là. Et c'est vrai que pendant des années, ça le fait un peu moins ces temps-ci. Et encore parce que là, j'ai une amie qui a eu un enfant, donc du coup, ça rebondit encore dans la tête. Je me dis en fait, c'est ultra compliqué en fait de te sortir de ça. Est-ce que tu le veux ? Est-ce que tu le veux pas ? Est-ce que t'en as vraiment envie ? Est-ce que c'est tout ce qui va... Enfin, moi, je suis homo, donc c'est aussi hyper compliqué en France, enfin, qu'il n'y a que sur TF1 que ça fonctionne correctement. Et non, mais c'est la vérité. Et du coup, c'est vrai que je me pose souvent cette question. Est-ce que c'est moi-même qui le veux, cet enfant ? Parce que oui, j'adore les enfants. Oui, j'ai une fibre tout de suite. Dès qu'il y a un gosse, ça fonctionne. Ou est-ce que je le voulais, en fait ? Parce qu'il fallait que je remplisse ce truc hétéronormé de cette société où, en fait, à 33 ans, t'as pas de gosse, mais t'as vu tes frères et sœurs ?
Alors, merci pour la question. Effectivement, hein, on est une génération où il y a de plus en plus la possibilité de se poser cette question d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Les générations d'avant, ils sortaient de la guerre, hein, il fallait repeupler un petit peu, donc ils faisaient des enfants. Ou il n'y avait pas de contraception, donc ils ne se demandaient pas, tiens, est-ce que je vais essayer de ne pas avoir d'enfants ? Donc il y a cette possibilité qu'on a là, qui est toute nouvelle et qui nous questionne énormément. Et avant, quand je parlais de partir à la recherche un petit peu de ses parents ou de la rencontre de ses parents, c'est aussi de partir à la rencontre du schéma dans lequel on a grandi. Et ça nous questionne beaucoup. Et une fois qu'on arrive à se dire, ça c'est le schéma dans lequel j'ai grandi et... je suis en train de reproduire ce schéma-là parce que j'ai grandi dedans. Bon, j'en suis conscient, il n'y a pas de souci, c'est comme ça, c'est OK. Ou alors, j'ai grandi dans ce schéma-là, mais j'ai pas envie de le reprendre. OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je pense que l'important, c'est de pouvoir vraiment bien se questionner ce que tu es en train de faire et ce que tu as pu dire là. C'est très bien. Donc, ça veut dire que tu es en cheminement et que tu arrives à essayer d'individualiser ton désir et de le prendre comme ton propre désir et pas une injonction familiale, sociétale ou quoi que ce soit d'autre.
Et moi, je veux bien ajouter que, en fait, on est tous victimes de ce système et de cette injonction de toute manière hétéropatriarcale, comme tu le disais. Donc, en fait, une fois qu'on a fait ce constat, je trouve que tout est à repenser, effectivement, comme tu le disais très bien, Daniel. Et que par ailleurs, peut-être que la question à se poser, et qui pour moi est un peu différente, c'est est-ce que j'ai envie de cette vie-là ? Tu vois ? C'est pas juste le désir d'enfant ou pas qui est un truc un peu vague. C'est est-ce que j'ai envie de me lever trois fois par nuit pour gérer un bébé qui fait ses dents ou un bébé voilà qui a besoin de trucs quoi. Est-ce que j'ai envie d'amener un enfant tous les lundis au judo, le jeudi aussi. Est-ce que j'ai envie. Enfin tu vois, tu te poses limite tous les trucs, même les plus désagréables et tu vois. Bon après c'est pas un tableau Excel, ça va pas te dire oui, non à la fin. Mais je pense que c'est aussi bien de le poser en ces termes parce que la question et qui pour moi est très importante, c'est de quelle vie j'ai envie. Et je pense qu'on n'est jamais plus heureux que quand on est à sa place et dans la vie qu'on a envie.
René Grezard, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à Daniel Batoula, évidemment, à ce public et à ces super chouettes questions. Merci beaucoup à la Gaîté Lyrique pour leur accueil. Merci à Estelle Collat qui a réalisé l'émission, à Charlotte Bex qui l'a produite, à Juliette Livartowski qui a lu les témoignages, ainsi que Charlotte Bex. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, @encoreheureuxpodcast sur le site de Binge Audio, binge.audio. À très bientôt.
Un grand merci à Camille Test.
Merci. Merci.
Salut chers auditeurices, merci d'avoir écouté cet épisode d'Encore Heureux. Encore Heureux, c'est enregistré une fois par mois, en public, à la Gaîté Lyrique. Et le 15 novembre prochain, on va parler de travail avec Céline Marty et de dépression avec Claire Selma Aïtou. Prenez vos places sur le site de la Gaîté Lyrique, billetterie.gaîté-lyrique.net. Et on se voit en novembre. À bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.